Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Put CO2 in the air, it's going to get warmer. And this was figured out in 1895.
Ready? Everybody say city.
City.
Oh. Two.
C'est la danse du CO2, imaginée par un certain Billy Brennan, qui utilise la chanson, la danse et le théâtre pour faciliter l'apprentissage des enfants et les inciter à changer de comportement. Il n'est pas encore mûr pour Broadway, mais il expliquait ici simplement l'impact du CO2 sur la planète, le CO2 qui, en excès, est accusé de changer le climat de la Terre. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour de la semaine, les journalistes de la rédaction se mobilisent pour traiter et analyser un fait de l'actualité économique, environnementale ou sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont certaines entreprises luttent contre les méfaits du CO2.
Les manifestants pro-climat redonnent de la voix. Ils étaient quelques-uns à manifester cet après-midi à Bruxelles pour remettre en lumière les enjeux climatiques, d'autant qu'une récente étude le prouve, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse.
Oubliez l'impact du Covid et des confinements sur le climat. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de CO2 pourraient atteindre des niveaux records en 2023 et continuer de croître ensuite. Le CO2, première source du réchauffement climatique, n'est pas une priorité des plans de relance post-Covid, regrettait l'AIE, ce qui rend d'autant plus urgent les initiatives en matière d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne ambitionne ainsi de réduire de 55% ses émissions à l'horizon 2030 par rapport au niveau observé en 1990, avec l'objectif de parvenir à la neutralité climatique d'ici à 2050. La question du réchauffement climatique sera d'ailleurs au centre de la COP26 qui se déroulera à Glasgow début novembre avec l'espoir de faire oublier l'échec de la COP25. On aura l'occasion d'en reparler dans la story, mais alors que le monde semble avoir encore du mal à s'accorder sur la façon de réduire notre empreinte climatique, mon attention s'est portée sur un article d'Anaïs Moutot publié dans les Échos Weekend. Elle s'est rendue en Islande pour visiter le plus grand site de captage de CO2 du monde. Bonjour Anaïs Moutot.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste aux Échos. La musique de Steindór Andersen, c'était pour nous mettre dans l'ambiance islandaise. Vous vous êtes rendu à une vingtaine de kilomètres à l'est de Reykjavik pour y voir la mise en route de la plus grande usine de captage de CO2 du monde. Elle s'appelle Orka, qui signifie force ou énergie en islandais. À quoi ça ressemble ?
C'est une installation qui est composée d'espèces de rectangles. Il y en a quatre qui tiennent sur des pieds bétonnés et chacun fait à peu près la taille d'un conteneur. Ils sont installés perpendiculairement les uns aux autres, donc ça fait des espèces d'angles. Et dans chaque rectangle, à chaque fois, on a 12 boîtes carrées dans lesquelles sont insérés deux ventilateurs. Et donc en tout, on a 96 ventilateurs qui sont installés comme ça. Et cette installation, elle est connectée par un système de tuyaux à une salle des machines qui est située juste à côté, en fait, sur la gauche de l'installation. Donc c'est une infrastructure qui n'est pas très belle. C'est un style un peu rebutant, ça fait un peu penser au brutalisme. Et puis ça tranche pas mal avec le paysage autour parce qu'en fait cette installation, elle est sur une centrale géothermique en Islande, donc qui a des collines assez volcaniques tout autour, qui sont recouvertes de mousse verte avec une terre un peu noire. Donc c'est un assez beau paysage, il y a même quelques moutons qu'on a vus autour qui se promenaient. Et donc en fait cette centrale, on a des grandes volutes de vapeur qui s'échappent du sol. Et en fait l'entreprise qui a créé cette installation, qui s'appelle Climeworks, elle a choisi cet endroit parce que ça lui donne accès à cette énergie de cette centrale géothermique qui est très peu carbonée pour faire tourner cette installation, les ventilateurs, etc.
We're the Swiss company trying to help reverse climate change using direct air capture technology. How does direct air capture and storage work?
Comment est-ce que ça marche ?
Alors, c'est une opération qui n'est pas facile à réaliser parce que le dioxyde de carbone, en fait, il est très dilué dans l'air ambiant. Il y a une concentration que de 0,04%, donc c'est vraiment tout petit. Et donc, en fait, les ventilateurs, ils vont absorber l'air en tournant. Et derrière eux, on a un filtre solide qui va absorber le CO2 dans l'air ambiant. Ce filtre, en fait, ça fonctionne un peu comme une éponge, sauf que au lieu de se gorger d'eau, bah, il se gorge du gaz. Et au bout de 2h30, il est saturé de ce gaz. Et donc, en fait, pour qu'il puisse le libérer, Climeworks va envoyer de la chaleur, en fait, via un des tuyaux. La chaleur qui est issue de la vapeur de la centrale. Et ça permet, en fait, de libérer ce CO2. Dans le jargon, on dit que le filtre est régénéré. Donc là, le filtre, il peut à nouveau absorber du CO2. Et le CO2 qui a été libéré, eh ben, on l'envoie via l'autre tuyau vers la salle des machines. Où là, en fait, on va le séparer de tout autre élément pour s'assurer qu'il est vraiment bien pur. Et on va le mettre dans un réservoir et puis on va le compresser.
Oui, c'est un peu ça la question. On voit que le CO2... il est capté, on imagine hein, comment s'est fait cette captation hein, des gaz, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite une fois qu'on l'a capturé, ce CO2 ?
Ben, c'est un peu la grande question. Donc là, à Orca, en fait, une fois que le CO2 est compressé, il est mélangé à de l'eau, ça forme une espèce d'eau gazeuse, en fait. Et donc, cette eau gazeuse, ben, elle parcourt 3 km dans un pipeline qui aboutit à une roche basaltique. Et en fait, cette eau gazeuse, elle est injectée dans cette roche qui est composée de magma refroidi issu du volcan. Et elle est injectée vraiment très profondément à 2200 mètres sous le sol. Et là, en fait, le CO2, il va se minéraliser pour des milliers d'années parce que dans cette roche basaltique, il y a des éléments comme le calcium, le magnésium, le fer qui vont, en fait, au contact du dioxyde de carbone réagir et former une sorte de pierre qui va emprisonner le CO2 sur une échelle de temps très, très longue. Donc, en fait, le CO2, on peut le voir, les équipes là-bas m'ont montré des exemples de roches et ça fait des petits points blancs dans une roche toute grise, en fait. Et l'entreprise qui fait ça, qui est une entreprise islandaise qui s'appelle Carbfix. Ce qu'ils essayent de faire, c'est un peu du mimétisme de ce que fait la nature par elle-même, parce que on en parle un peu moins que des océans et des forêts, mais les roches, elles constituent elles aussi des puits de carbone. Et donc, en fait, dans la nature, quand l'eau ruisselle petit à petit, ben, ça aboutit à piéger le CO2, mais sur un temps très très long. Le processus, il met des milliers d'années. Là, ce que fait Carbfix, c'est d'accélérer le processus de mère nature, en quelque sorte. Bon, le truc qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est pas dangereux quand même de faire ça, de rajouter du CO2 dans le sol. Donc, eux, ils font des tests depuis 2014, parce qu'en fait, ils capturaient déjà une partie des émissions de la centrale géothermique, et ils n'ont pas constaté d'effets secondaires problématiques. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'aggravation de la sismicité, il n'y a pas non plus de contamination des eaux de source. Et on a vu, pareil, un bilan qui était plutôt positif pour une expérience qui a été menée dans l'État de Washington entre 2013 et 2015 par le département de l'énergie américain. Donc, a priori, sur les petites expériences qu'on a menées, pour le moment, on n'a pas vu de problème.
Ce qui aurait été chic, c'est que ça se transforme en pétrole en quelques années. Comme ça, la boucle aurait été bouclée, j'ai envie de dire. Vous le disiez, Anaïs, c'est pas très beau, visiblement, comme installation. Comment est-ce qu'elle a été accueillie par les écologistes ?
C'est mitigé. Disons que cette idée qu'il va falloir retirer du CO2 de l'atmosphère, créer ce qu'on appelle des émissions négatives, elle est mise en avant par plusieurs grands groupes scientifiques. Donc il y a aussi bien le GIEC que les Académies nationales des sciences, des différents membres de l'Union européenne, des États-Unis, etc. Leur idée, c'est d'utiliser cette technique, d'utiliser ce retrait pour les secteurs qui sont difficiles à décarboner, où la baisse des émissions est quasiment impossible, en tout cas sacrément compliquée, comme la production d'acier ou de ciment, où le CO2 en fait est une matière première, production de plastique, mais aussi l'agriculture, certains ajoutent l'aviation. Donc en fait, c'est un peu ce périmètre qui fait débat, parce qu'il y a des organisations comme Greenpeace qui vont dire « Attention, si on met une définition large, ça risque de créer une sorte de laisser-passer pour des groupes qui pourraient réduire leurs émissions, ou pour penser à des solutions alternatives. Par exemple, changer nos modes de vie en prenant moins l'avion, recycler davantage le plastique ou en utiliser moins, etc. » Donc ça fait débat. Et l'autre chose, c'est que ce retrait du carbone dans l'atmosphère, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est pour ça que Climeworks est situé sur le site d'une centrale géothermique. Et donc, pour que ça ait un sens écologique, il faut utiliser des énergies renouvelables. Mais le débat, c'est est-ce qu'on ferait pas mieux d'utiliser ces énergies pour baisser directement les émissions au lieu de les utiliser a posteriori pour récupérer le CO2 une fois qu'il est émis dans l'atmosphère. Alors, Climeworks, ils vont dire que eux, ils proposent un débouché pour les énergies renouvelables quand il y a des pics et que souvent, en fait, il y a trop d'énergie dans le réseau à certains moments et qu'on peut pas le vendre et que ça entrave le développement de projets, de fermes solaires, d'éoliennes, etc. Donc, en fait, qui catalysent plutôt le développement des énergies renouvelables. Bon, c'est débattable. Et en dernier, il y a la question aussi de est-ce que ces technologies, elles sont déployables à l'échelle suffisante assez vite pour avoir un impact? Et donc, est-ce que les inclure dans des scénarios pour rester à 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle, c'est pas prendre trop de risques? Est-ce que c'est pas mettre de l'argent sur des technologies qui sont pas encore matures au lieu de l'utiliser pour déployer massivement des solutions qu'on sait déjà bien fonctionner, aller à fond sur la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, etc. Donc voilà, pas mal d'organisations écologistes mettent ces différentes choses en avant pour dire attention, on n'est pas complètement contre, mais faut faire vachement gaffe à comment c'est utilisé, pourquoi, etc.
Vous parliez du coût, c'est un investissement important ?
Oui, c'est un investissement important. Donc Orca, ça a coûté 10 à 15 millions d'euros, hein, donc ça reste un coût très élevé, sachant que donc, ça se traduit par un prix de la tonne de CO2 capturée qui est de 700 à 1100 euros. Donc c'est bien plus élevé que la tonne de CO2 sur le marché du carbone qui, même si elle a doublé en 6 mois, tourne autour de 60 euros. Donc on est très loin. Et ça, donc ce prix 10 à 15 millions d'euros, c'est pour une installation qui capture 4000 tonnes de CO2 par an. Donc c'est à peu près les émissions de 360 Français. Donc voilà, 10 à 15 millions d'euros pour les émissions de 360 Français, c'est quand même un coût très élevé.
On voit bien que la question du coût reste centrale. On a compris aussi que des usines de ce type, en raison du coût de l'énergie notamment, ne peuvent pas être construites partout.
Ben, en fait, d'un côté, leur avantage, c'est qu'elles peuvent être construites dans quand même pas mal d'endroits puisque ça capture le CO2 dans l'air ambiant. Donc, par rapport avant, on capturait le CO2 à la sortie des usines. Enfin, c'est toujours quelque chose qu'on fait, mais ça voulait dire que voilà, on devait le faire à l'endroit où est la cimenterie. Donc là, dans l'idée, ça peut être installé dans beaucoup plus d'endroits. Mais le problème, c'est que c'est dépendant d'une source d'énergie. Donc, il faut qu'il y ait une énergie renouvelable accessible à côté. Et dans l'idéal, il faut aussi qu'il y ait un site de stockage, donc une roche ou un fond marin ou un ancien réservoir de pétrole qui puisse accueillir ce gaz. Et pour éviter de multiplier encore les coûts, il faudrait que ça soit au même endroit qu'on l'a en Islande. Mais en fait, cette combinaison, elle est assez rare parce que sinon, en fait, il faut construire des bateaux, il faut construire des pipelines pour transporter le CO2 et le mettre dans le site de stockage. C'est ce qui est envisagé de faire. Hein. Il y a un gros projet en mer du Nord avec un énorme site de stockage, ça s'appelle Northern Lights, qui doit être opérationnel en 2024. Et donc, bah, ça, ce sera transporté par bateau, ce qui, bah, du coup, va rajouter quand même des émissions de CO2 jusqu'à ce que peut-être un jour, on ait des bateaux qui soient zéro carbone, mais ce n'est pas le cas pour le moment.
Mais vous parliez de ce projet en mer du Nord. Climework, hein, qui est une société suisse, a-t-elle d'autres projets de ce type dans le monde ?
Elle en a déjà. La plus grosse jusqu'ici, c'est l'usine d'Inwil, qui est en Suisse allemande, qui fonctionne depuis 2017, qui utilise l'énergie d'une déchetterie voisine pour capturer le CO2. Mais donc, c'est petit, hein, 1000 tonnes de CO2, c'est même pas les émissions de 1000 Français. Donc voilà, et la société, elle prévoit un autre site qui va capturer 10 fois ce montant d'ici 2 à 3 ans, donc 40 000 tonnes cette fois-ci, mais elle ne dit pas encore où. A priori, on peut penser que ce sera sur un autre site de centrale géothermique, car c'est ce qui fait le plus de sens pour le moment, parce que c'est une énergie très peu carbonée, disponible 24 heures sur 24, etc.
À une époque, on parlait de mettre des pièges à CO2 à la sortie des cheminées des usines les plus polluantes. Quelles sont les autres méthodes utilisées pour capter le CO2 ?
Alors oui, ça continue d'exister, hein, le captage de CO2 à la sortie des cheminées, des usines ou aussi des centrales à charbon, à gaz. Il y a 28 installations de ce genre hein, qui capturent 37 millions de tonnes de CO2 par an. Mais c'est un rôle différent en fait. C'est de réduire les émissions d'activités polluantes et non pas de créer des émissions négatives, c'est-à-dire de réduire le stock de CO2 existant. C'est plus facile à faire parce que le CO2 il est bien plus concentré dans ses fumées que dans l'air. Il est concentré de l'ordre de 10 à 30% en fonction que si c'est une cimenterie ou si c'est une centrale à charbon ou à gaz. Mais c'est pas un grand succès jusqu'ici parce que il y a 70 projets qui ont été démarrés et abandonnés parce qu'ils étaient trop chers. Et ceux qui existent sont en majorité aux États-Unis parce qu'en fait, ils bénéficient de crédits fiscaux pour ensuite être enfouis sous la terre pour récupérer du pétrole. C'est un peu le seul débouché économique qui les rend viables jusqu'ici parce qu'en fait, le CO2, quand on l'injecte dans un puits de pétrole, ça réduit la viscosité et ça permet d'en capturer encore plus. Donc bon, c'est plus très écolo. Sinon, il y a d'autres méthodes qui sont évoquées pour capturer le CO2. Une des plus prometteuses, c'est ce qu'on appelle BECCS. Dans le jargon, c'est-à-dire qu'en fait on prend la biomasse qui normalement émet du CO2 lors de sa décomposition et on évite cette émission en l'utilisant pour alimenter des centrales électriques ou des usines de production de biocarburants et là-dessus on capture le CO2 émis. Une autre des solutions également à partir de la biomasse, donc ces résidus de matières agricoles, forestières, etc., c'est de la chauffer via une pyrolyse, c'est-à-dire sans oxygène, et ça permet d'obtenir une sorte de charbon biologique qu'on appelle biochar et qui se décompose hyper lentement, et donc ça permet en fait de ralentir ralentir le relargage du CO2 par la biomasse quand elle se dégrade naturellement. Et en plus, en fait, quand on met ce biochar dans les sols, ça a le rôle d'un fertilisant. Et donc, ça renforce la capacité des sols à fonctionner comme des puits de carbone et ça permet aussi d'améliorer le rendement, etc. Une des autres possibilités qui est évoquée, c'est d'augmenter la surface de certaines pierres qui, quand elles s'érodent au contact de l'eau, elles capturent le CO2. Donc, on a une association californienne, Projet Vesta. On a une entreprise néerlandaise qui font ça. En fait, elles broient de l'olivine et elles l'épandent sur des plages, par exemple. Et donc, au contact des vagues, ben, ça accélère la capture du CO2. Il y a plein d'idées un peu comme ça. Il y en a qui regardent aussi plus les océans en voulant augmenter le pH de l'eau et renforcer ainsi leur rôle de puits de carbone ou y ajouter du fer pour faire croître des algues à la surface qui capturent le CO2. Enfin, il y a plein un peu d'expériences qui sont menées. Mais bon, après, il faut faire attention aux conséquences parce que, ben, par exemple, sur les océans, ça peut avoir un impact sur l'écosystème marin, etc.
Today we make a change!
Une musique hollywoodienne pour le teasing d'un prix, le X Prize for Carbon Removal. Qu'est-ce que c'est, Anaïs ?
Oui, c'est Elon Musk qui a lancé ça en début d'année. Donc, c'est un prix de 100 millions de dollars et du coup, qui propose à différentes entreprises de travailler sur ce sujet. Donc, avec quand même une échelle qui doit être assez élevée, quoi, pour que ça soit une technologie qui puisse être déployée à grande échelle. Je crois qu'il veut que ça puisse capturer au moins 1000 tonnes, mais qu'il y ait un modèle économique à l'échelle du million de tonnes. Et donc, les différentes équipes devront rendre ces projets en 2025 et après, il y aura donc ces 100 millions qui seront divisés entre les différentes équipes, un prix de 70 millions, un prix de 30, etc.
Dans cette chanson, on apprend que l'homme produit chaque jour presque 1 kg de CO2 rien qu'en respirant. Avec 7 milliards d'habitants sur la planète, je vous laisse faire le calcul. Mais le fait de respirer ne contribue pas massivement au réchauffement climatique, contrairement aux émissions provenant de la combustion des énergies fossiles. Vous pouvez reprendre votre souffle. On pourrait aussi parler des pets et des rots de vaches responsables de 125 kg d'équivalent CO2 chaque année par bovin, sachant qu'en broutant de l'herbe, les vaches contribuent aussi à l'absorption du CO2, l'herbe ayant besoin de ce gaz pour croître. Bref, en matière de réchauffement climatique, rien n'est vraiment simple, alors que l'industrie contribue aussi à sa façon à consommer du gaz carbonique. Bonjour Vincent Collen.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes spécialiste de l'énergie aux Échos. Le CO2 émis en excès est responsable du réchauffement climatique. On a parlé du développement de solutions pour capter ce CO2 directement dans l'air. Mais Anaïs évoquait aussi l'utilisation du CO2 par l'industrie pétrolière. Le CO2, c'est moins connu, à son utilité dans l'industrie ?
Oui, en effet, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte le mois dernier. En Angleterre, deux usines d'engrais ont dû fermer provisoirement leurs portes parce que le coût du gaz naturel avait trop augmenté. Donc, c'était plus rentable de fabriquer des engrais. La production a arrêté. Et à cette occasion, ils ont aussi arrêté la production de CO2. On s'est rendu compte que ces usines avaient comme sous-produit du gaz carbonique qui était vendu commercialement. Alors, le gros des usages du gaz carbonique, c'est pour la fabrication d'autres engrais, notamment l'urée. Et puis, aux États-Unis, quelques compagnies pétrolières utilisent du gaz carbonique pour réduire la viscosité du pétrole et améliorer la pression des puits. Ça, en l'injectant le CO2 dans les puits de pétrole, ça permet d'améliorer leur rendement.
Il y a d'autres secteurs industriels consommateurs de CO2 ?
Alors, il y en a énormément. C'est ce qu'on a découvert le mois dernier avec surprise parfois. Alors, ce sont souvent de très petites quantités, mais elles sont très nombreuses. Par exemple, dans l'agroalimentaire, on utilise le CO2 pour gazéifier des boissons, les eaux minérales, les sodas, la bière. Ça sert aussi pour extraire la caféine du café. On peut aussi fabriquer de la glace sèche avec le CO2 pour transporter certains produits sensibles, par exemple les produits pharmaceutiques. Ça peut aussi être injecté dans les serres pour augmenter la production des végétaux.
On voit plein d'utilisations potentielles hein, dans certains secteurs industriels. Qu'est-ce que ça représente à l'échelle des émissions de CO2 dans le monde ?
Malheureusement, c'est très petit. L'utilisation commerciale du CO2, c'est 250 millions de tonnes par an, à comparer à 33 milliards de tonnes qui sont émises dans l'atmosphère pour les usages énergétiques. Ça fait moins de 1%. Néanmoins, le marché du CO2 utilisé commercialement progresse régulièrement, d'environ 2% par an. Et il y a des espoirs d'utilisation nouvelle. Par exemple, certains industriels commencent à injecter du CO2 dans le béton et le ciment pour durcir des matériaux de construction. On a aussi l'espoir qu'il puisse être utilisé pour fabriquer des carburants propres pour l'aviation. Dans certains cas, lorsque le CO2 remplace des énergies fossiles, ça pourrait participer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Merci Vincent Collen, spécialiste des énergies aux Échos, et merci Anaïs Moutot pour cette visite d'Orca en Islande, un reportage à retrouver dans les Échos Weekend et sur leséchos.fr. 1, 2, t'es capi, 3, 4, t'es capi, lève la main si t'es capi, on va voir qui s'est compté. Oui, j'ai tout capté. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été captée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Castbox, Spotify et Deezer. Mais vous pouvez aussi écouter le dernier épisode de La Story en demandant poliment à Alexa sur Amazon Music.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.